Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le retour du sourire en classe. Première matinée sans masque pour quelques 12 millions d'élèves. On ira aussi à Kiev, bien sûr, la capitale, où, capitale ukrainienne, où pour la première fois un immeuble d'habitation a été touché ce matin. Et puis les prix de l'essence, on nous avait promis une baisse pour cette semaine. Qu'en est-il vraiment? Pierre Herbulot est allé vérifier ça à la pompe.
À 12h40, nos deux focus, coup de projecteur sur ces Français qui ont choisi de garder le masque, pas pour des raisons de santé, mais plutôt parce qu'il leur permet de se cacher, de se protéger du regard des autres. Ce sera notre regard psy. Et à 12h50, la colère en Corse. Que faire? Comment calmer le jeu? Gérald Darmanin se rendra sur place mercredi et jeudi.
Notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous garder le masque à l'intérieur, au travail ou dans les boutiques malgré la levée des restrictions? Et vous dites oui à 58%, non à 39%.
Bon, c'est pas un sondage, hein, c'est une consultation. Faut faire attention.
C'est une consultation,
mais c'est significative.
Sûr, mais c'est un indice. Ce matin, il y avait encore pas mal de masques dans les rues. On le rappelle, obligatoire, notamment dans les transports. La météo avec vous, Louis Baudin. Alors Louis, c'est des lunettes de soleil dont on a besoin dans le nord et d'un parapluie au sud.
Exactement, hein, c'est vrai Amandine, qu'on aura du soleil dans toute la moitié nord. C'est vrai que ce matin, il y avait quelques nuages encore près de la Manche. Je les vois là, ils sont en train de partir vers nos amis anglais ou encore vers les régions du nord-est. Résultat, dans la moitié nord cet après-midi, effectivement, on aura du grand soleil, comme tu vois le nuageux sans conséquence. En revanche, plus on ira vers le sud, plus on retrouvera des nuages, alors assez denses déjà, de la région Poitou-Charentes jusqu'à la région Rhône-Alpes, et puis encore plus au sud, hein, des Pyrénées à la Méditerranée, au sud des Alpes. Là, ça restera encore menaçant, avec des averses sur les Pyrénées, ou encore près de la Méditerranée, un peu de neige en montagne. Alors, ça n'aura plus l'intensité de ce qu'on a connu durant le week-end, mais encore quelques pluies dans le Languedoc, et puis les températures. Alors là, ça commence à grimper, hein, ça vous fait plaisir ça, Amandine.
Ah oui.
14 à 16 degrés au nord comme au sud. On ira même jusqu'à 17 degrés à Bordeaux ou encore Marseille.
Et ça va aller de mieux en mieux, c'est ce que vous nous direz tout à l'heure à 13h.
RTL Midi.
Mais pour commencer, direction l'école Les Ajoncs à Issy-les-Moulineaux. Comme dans toutes les écoles, collèges et lycées de France, élèves et enseignants ont passé la matinée sans masque, une première depuis des mois. Antoine Cavaillé-Roux, bonjour, vous êtes sur place pour RTL. Alors, sourire sur toutes les lèvres.
Ben oui, c'est l'heure de la cantine. Autour de moi, des enfants sans masque qui courent partout ce matin dans les classes. Pas de masque non plus, ce qui a ravi Camille. Il est en CE2.
Je suis très content parce que avant, je portais le masque et j'arrivais plus trop à respirer.
Ouais, là, tu peux voir le sourire de tes copains, de tes copines.
Oui. Par exemple, avant, j'avais pas trop vu les visages de mes copains, mais là, je peux très bien les voir.
Alors, notre petit bonhomme n'a pas pu voir le visage de Lydia. Elle a 8 ans et comme 3 élèves sur 22 dans cette classe, elle a décidé de garder le masque.
Parce que j'aime pas trop attraper le Covid et je voudrais pas avoir le Covid quand ce sera mes autres vacances.
Voilà, certains élèves restent prudents, certaines enseignantes aussi, comme Pauline, qui va garder le masque derrière son bureau, mais elle le reconnaît. Voir des sourires en classe, ça fait du bien.
C'était très agréable et surtout de découvrir aussi leurs expressions quand ils sont en classe parce que comme depuis septembre ils le portent, c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment encore leur sourire ou leur réaction quand on est dans des interactions en classe, donc c'est plutôt très agréable. Bien sûr, on les avait un petit peu dans la cour, mais là c'est vrai qu'en classe je trouve que ça détend un peu parfois les échanges et c'est beaucoup plus fluide en fait.
Et oui, plus simple de faire classe sans masque, plus facile aussi quand les élèves arrivent à l'école avec le sourire, et c'était le cas ce matin.
Et ça fait plaisir. Merci à vous Antoine Cavaillé-Roux en direct de cette école d'ici les Moulineaux. Moi quand j'ai déposé ce matin mon fils à l'école, il m'a dit « t'es sûr qu'on n'en a pas besoin ?» du masque. Mais oui, ça les a marqués les enfants. Masque qui reste, il faut le rappeler, obligatoire en tout cas dans les transports et à l'hôpital. Ce matin sur RTL, le professeur Delfrécy a répondu à tous ceux qui s'interrogent, qui se demandent si ce n'est pas trop tard pour lever les restrictions, alors que le nombre de contaminations,
on le rappelle,
trop tôt, pour lever les restrictions, alors que le nombre de contaminations repart là-haut. Écoutez-le.
C'est pas blanc ou noir. On n'est plus dans l'obligation, on est dans la décision individuelle. Je m'explique. Des jeunes, rien n'interdit qu'ils reprennent le masque quand ils vont voir leurs grands-parents. Même chose pour les personnes les plus âgées. C'est pas parce que le masque est je dirais, des plus obligatoires qu'on n'est pas obligé de le porter. Hein. On peut le continuer à le porter. L'épidémie n'est pas finie. On est bien dans la cinquième vague qui se poursuit, qui est liée à Omicron. Il y a une augmentation, c'est clair, mais celle-ci nous paraît maîtrisable.
Le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique sur RTL ce matin avec Yves Calvi.
En Ukraine, l'armée russe a bombardé ce matin un immeuble de Kiev.
Un immeuble d'habitation, il y aurait au moins deux morts. Émilie Beaujard, vous êtes l'envoyé spécial de RTL dans la capitale ukrainienne. Bonjour. Avez pu vous rendre au pied de ce bâtiment ce matin.
Oui, Anne, cet immeuble se trouve à la sortie nord de Kiev. Le missile lancé par l'artillerie russe a touché cet immeuble de 10 étages vers 5 heures du matin, heure locale. Il a touché la base de l'immeuble, détruisant tous les appartements autour. Heureusement, beaucoup d'habitants avaient déjà quitté la ville, mais plusieurs dizaines résidaient encore ici. Une femme qui habitait au quatrième étage se demande maintenant où elle va pouvoir dormir ce soir, en état de choc, comme beaucoup de ses voisins. Elle ne savait pas trop vers où aller. Selon un député ukrainien présent sur place ce matin, ce quartier est un quartier résidentiel, populaire, avec une école non loin, un complexe sportif. Aucune cible militaire, assure-t-il. Selon lui, l'armée russe a délibérément visé ce bâtiment d'habitation pour terroriser la population. De ce quartier, les positions russes sont à une quinzaine de kilomètres et on peut entendre des tirs d'artillerie lourde au loin.
Émilie Beaujard en direct de Kiev pour RTL. C'est la première fois que le centre de la capitale est frappé hier. C'était l'ouest du pays, non loin de la frontière avec la Pologne. Écoutez, Alina, elle vit à Kiev et en appelle désormais à l'OTAN.
Maintenant, on vise la population civile. Ils ont choisi délibérément des méthodes purement terroristes. Je suis un peu perplexe parce que je ne comprends pas la réaction de l'Occident. Il y a eu des attaques missiles près de la frontière polonaise, donc on ne voit pas très, très clairement qu'est-ce que l'Occident attend. Que Poutine appuie sur le bouton nucléaire pour agir. Cette menace sera toujours présente, donc il faut agir au plus vite. Plus tôt on commence à agir, plus ce sera efficace.
L'appel d'Alina qui vit à Kiev, des propos recueillis pour RTL par Nerissa Emani. C'est dans ce contexte que les négociations, les pourparlers entre Russes et Ukrainiens ont repris ce matin. Discussion à distance, cette fois par visioconférence. Pour l'instant, aucune avancée.
L'une des conséquences de cette guerre ici en France, c'est la hausse des prix, vous le savez, hausse des prix des carburants.
Jean Castex a annoncé hier une ristourne, 15 centimes le litre pour tous, mais à compter du 1er avril, insuffisant, disent ce matin Valérie Pécresse et Marine Le Pen.
Il a rendu 15 centimes. Pourquoi le 1er avril? Pourquoi pas dès maintenant? Est-ce que ça correspond vraiment au surplus de recettes que le gouvernement a engrangé? Je ne le crois pas. Je veux que tous les surplus de recettes soient rendus aux Français et je veux que les entreprises soient encouragées à prendre en charge une partie des frais d'essence de leurs salariés par des mesures de défiscalisation.
D'abord, pourquoi le 1er avril? Parce que là, c'est urgent. Hein. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où des centaines de milliers de Français sont en train de réfléchir à quitter leur emploi. Car travailler leur coûte plus cher que de rester éventuellement aux minima sociaux. Donc qu'est-ce qu'on attend d'avoir 1 million de chômeurs? On attend 15 jours? 15 jours? Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de l'élection présidentielle? C'est ça le calcul?
Valérie Pécresse au micro RTL de Thomas Després, Marine Le Pen avec Marie Mollet, 1er avril donc pour cette ristourne. En attendant, les distributeurs nous avaient promis une baisse des prix pour cette semaine après celle la semaine dernière du baril de pétrole. Alors là, est-ce que ça se vérifie à la pompe ce midi, Pierre Herbulot?
Alors, je peux vous dire qu'on n'est pas les seuls à s'être posé la question. Depuis ce matin, ça défile aux 8 pompes de la station-service où je suis. Étienne et Christian sont arrivés plein d'espoir pour faire le plein le moins cher possible.
Ouais, bah c'est pour ça que je suis venu ce matin. Parce que j'ai relu ce matin, en plus sur Internet, que voilà, il avait annoncé vendredi 11 que les prix allaient baisser au moins 35 centimes pour le gasoil.
Alors ?
Et non, c'est pas le cas. Du coup, là, je mets un petit peu et j'attends que ça baisse.
Donc, fausse annonce, c'est toujours le même prix.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
La défaite. Ça y est, on est au bout.
Le litre de diesel est affiché ici à 2,10€. Une désillusion pour Marc, 7 ans qu'il est VTC.
Le prix du litre, il était à 1,20€. Déjà, je pense à changer de métier. J'espère que ça va baisser bientôt, parce que sinon, c'est plus possible, quoi.
Et justement, quelques minutes à peine après son départ, vers midi, les chiffres sur la grande colonne qui affiche les prix s'affolent façon roulette de casino. Le gasoil perd 12 centimes. Jonathan, un gros rouleur, vient d'économiser 5€. C'est bien, mais peut mieux faire.
C'est pas suffisant, honnêtement, c'est mince comme 2 centimes. Alors, mon plein à moi en temps normal, Je le faisais pour 85 euros. Là, je me retrouve à faire 137 euros par semaine. J'en fais 3 par semaine. Ça fait 6 000, plus de 7 000 euros de plus par an. Mais c'est énorme.
Prix du gasoil 1,97€ ici donc, le samplon 1,99€. La prochaine baisse de 15 centimes, vous le disiez, c'est le 1er avril et certains automobilistes ici que j'ai croisés ont déjà prévu d'attendre ce jour-là pour faire un plein complet.
Ah bah pour ceux qui le peuvent, effectivement, en même temps, on découvre avec vous, Pierre, que les prix donc peuvent bouger au cours d'une même journée dans une même station-service en direct de Levallois-Perret pour RTL.
Après les incidents d'hier à Bastia, Gérald Darmanin annonce lui qu'il se rendra sur place en Corse mercredi et jeudi.
Le ministre de l'Intérieur dit vouloir ouvrir, je cite, un cycle de discussion avec l'ensemble des élus et des forces vives de l'île. Pas forcément une bonne idée ou la solution, disent ce matin plusieurs députés de l'île. Écoutez Jean-Félix Acquaviva et Michel Castellani.
C'est un scandale d'État et en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que la vérité éclate et que la justice, la vraie, triomphe. Et puisque nous avons entendu que le ministre de l'Intérieur allait venir, nous pensons qu'il n'y aurait rien de pire. L'embrasement serait devant nous et pas derrière nous. Et personne ne le souhaite.
Le gouvernement est resté sourd à tout ce que les Corses démocratiquement réclamaient jusqu'à présent. Maintenant, il faut avancer.
Quand je regarde ce qui s'est passé là, au niveau de la Corse, je m'interroge de savoir s'il n'y a pas une espèce de forme de provocation rampante. Cette provocation rampante, quelque part, elle devait déboucher sur un drame. Il est arrivé.
Michel Castellani et Jean-Félix Acquaviva, deux députés de Corse au micro RTL de Tom Lefebvre. Et puis c'est l'une des images de ce week-end aussi. Et c'est sifflé contre Lionel Messi à chaque ballon touché pendant 90 minutes hier face à Bordeaux. La star du PSG a entendu ça. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Ça vous désole, Pascal ?
Les sifflets de la honte.
Bon, ces sifflets en tout cas
font... 7 fois ballon d'or, ça en dit beaucoup sur notre époque.
Eh bien, ça fait beaucoup réagir. Alors, pour faire simple, Philippe, il y a deux camps.
Exactement. Alors, comme Pascal, il y a le camp des offusqués. On ne touche pas à la légende. Alors, ils sont souvent anciens joueurs, hein, déjà. Luis Suarez, Cesc Fabregas, Joan Micou, ce matin sur les réseaux sociaux.
C'est
ils
mon
sont
cas,
aussi
ancien grand joueur.
Éditorialistes, c'est plutôt votre
cela.
Cas. Vincent Duluc, dans l'équipe ce matin, siffler Messi est pour eux un crime de lèse-majesté. Évidemment, à Barcelone, en Argentine, l'opinion publique est outrée, même si l'entraîneur de River Plate, vous allez l'entendre, ancien joueur du PSG, également Marcelo Gallardo, dénonce aussi une forme d'hypocrisie Argentine.
Nous aussi, nous avons maltraité Messi, alors ne jouons pas, patriotes. Nous aussi, nous avons été durs avec lui, ayons de la mémoire.
On a le droit de siffler une icône, c'est l'autre camp ce matin, celui des supporters en général de Paris, d'ailleurs également, qui voient dans cette fronde un symbole, c'est la gabegie du Qatar, l'amoncellement inconsidéré de stars protégées, vieillissantes, surpayées, qui est ici sanctionné. On n'achète pas tout, surtout pas l'amour, fut-il pour le meilleur joueur du monde.
Mais c'est pas lui le responsable, Messi. Même si la gabegie, comme vous dites, du Qatar existe, il n'en est pas le responsable.
Bah, il peut en être une illustration pour certaines personnes.
Il symbolise l'ensemble des manquements.
Mais vous ne vous êtes pas mouillé. Vous avez dit, il y a ceux. Et vous en pensez quoi? Vous, vous n'êtes pas choqué par cela? Vous n'êtes pas même attristé par ça? Voilà.
Attristé, mais je comprends parfaitement. Et surtout, le but est atteint. C'est-à-dire que le Qatar, dans le monde entier aujourd'hui, est stigmatisé comme la cause réelle, profonde des maux du Paris Saint-Germain.
Merci Philippe.
On peut avoir du respect quand même un joueur cette fois. Vous vous rendez compte que Messi, il fait sans doute partie du trio des meilleurs joueurs de tous les temps.
Et ça fera réagir les auditeurs, 32-10.
Il n'est pas venu gratuitement non plus.
Mais arrêtez, il n'est pas gratuit. Van Gogh non plus, c'est pas gratuit. 12h43, coup de projecteur sur ces Français qui ont choisi de garder le masque. Pas pour des raisons de santé, mais parce qu'ils peuvent cacher leur visage. C'est le regard psy dans quelques instants. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Le sourire de la boulangère, mais qu'est-ce que ça fait plaisir,
c'est la nouveauté du jour, plus besoin de masques donc à l'école, au bureau ou pour faire ses courses. Et pourtant, certains ont décidé de le garder et pas forcément pour des raisons médicales.
Bah honnêtement, je suis un peu un cas particulier parce que l'anonymat du masque, c'est plutôt pas mal, je trouve, dans certaines situations. C'est pratique, c'est comme un cache de notre personnalité en fait.
Ça vous rassure, ça vous protège.
Ouais, voilà, exactement.
C'est à ce profil, à ces personnes qui, comme Sarah, trouvent un certain réconfort dans le masque que nous avons choisi de nous intéresser ce midi. Bonjour professeur Nicolas Franck.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Est-ce que ça vous surprend d'abord la réaction de cette jeune fille qui souhaite garder son masque pour se cacher ?
Oh non, pas tellement. On a toujours constaté que beaucoup d'adolescents avaient des difficultés à assumer leur apparence, souhaitaient se cacher. Et puis n'oublions pas non plus que certaines personnes qui sont phobiques, comme on dit, qui ont peur de la contamination, vont continuer à porter le masque pour se protéger. C'est une raison médicale, mais psychiatrique.
Et c'est inquiétant ou pas ?
Non, c'est pas inquiétant. Je pense que ce qui compte, c'est que ça convienne à ces personnes-là et à leur entourage. Si ça ne compromet pas les échanges, que ça ne les désocialise pas, moi, ça ne m'inquiète pas spécialement. Si elles se sentent rassurées et que leur entourage l'accepte, très bien, allons-y.
Mais dans ces temps égalitaires, le masque, c'était d'une certaine manière la grande égalité entre ceux qui ont un très beau visage et puis peut-être ceux qui ont un visage plus disgracieux.
Eh ben, tout était centré sur les yeux, effectivement. On avait parfois des surprises à l'ablation du masque. Le visage n'était pas tel qu'on l'attendait, sans en dire plus. Mais en même temps, là, on a ouvert une brèche dans le fonctionnement antérieur, puisque maintenant, on peut continuer à porter le masque sans que ça choque. Parce qu'en fait, on ne sait pas qui a une maladie immunitaire, qui a une dysimmunité, qui ne peut pas s'en passer. Et les personnes qui vont garder le masque... pourront paraître le faire pour cette raison-là.
Vous aviez publié en octobre 2020 Covid-19 et détresse psychologique, ouvrage publié chez Odile Jacob, dans lequel vous évoquiez notamment les conséquences du confinement sur notre santé mentale. 18 mois plus tard, on en a vécu plusieurs, des confinements. Est-ce que vous diriez que cette crise sanitaire va avoir des conséquences durables justement sur notre santé mentale à tous ?
Alors, elle a des conséquences durables sur notre vécu, sur notre histoire. Ça restera un mini-traumatisme pour chacun d'entre nous, un traumatisme violent pour d'autres, ceux qui ont perdu quelqu'un, que ce soit un proche ou que ce soit un patient dont ils s'occupaient pour des soignants d'EHPAD ou des professionnels de réanimation. Alors, ça fait pas 18 mois, ça fait 2 ans. Ce livre, je l'ai écrit pendant le premier confinement, en fait, pour laisser une trace d'un événement mondial et pour essayer de comprendre ce que l'isolement et puis le désœuvrement allait nous produire chez nous et puis comment d'autres personnes y faisaient face. Les astronautes, les spéléologues qui s'y étaient préparés, qui s'y étaient entraîner. Et en fait, j'ai voulu montrer les facteurs de résilience. Mais pour vous dire que ça fait 2 ans, effectivement, que la réflexion a commencé, que la crise a commencé, et qu'au bout de 2 ans, on a même du mal à croire que ça se termine.
Ça a fragilisé des gens qui, j'imagine, étaient déjà fragiles. Ça a aussi fragilisé, on en a tous dans notre entourage, des gens qui avaient l'air d'aller bien. On peut voir 2 ans après de nouvelles conséquences, justement maintenant que ça commence à aller mieux. Est-ce qu'il y a des choses à observer, à surveiller ?
Une chose importante dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est l'impact sur les personnes âgées. Alors, je vais vous citer 2 exemples, les personnes âgées et les enfants. Les personnes âgées, certaines se sont repliées et faisaient elles de peur, il y a 2 ans maintenant, pile 2 ans, et elles ne sont pas sorties, elles n'ont eu pratiquement aucun contact, sauf pour voir des médecins ou aller dans les centres de vaccination. Elles ont beaucoup perdu en autonomie, et il n'est pas certain qu'elles pourront ressortir toutes seules si on ne va pas les chercher. Donc la solidarité avec les personnes âgées, avec nos aînés, c'est extrêmement important. Et puis les enfants qui étaient en CE1, CE2, CM1, CM2, qui ont rompu tout contact social avec leurs camarades à ce moment-là, sauf sur les écrans, se sont habitués à interagir sur les écrans et sont entrés dans une grande dépendance à ce mode de communication. Je pense qu'il faut y être vigilant, qu'il y a des mesures éducatives et parfois soignantes à mettre en œuvre.
Merci Monsieur Franck. Et nous n'avançons pas masqués, en tout cas dans cette édition du 12h30. Merci, vous êtes psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon. Et nous allons parler de la Corse, la colère en Corse. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Deux semaines après la violente agression d'Ivan Colonna, la tension ne retombe donc pas en Corse. La manifestation organisée hier à Bastia vire à l'émeute. Ce sont les mots du procureur de la République sur place. 67 blessés, dont 44 parmi les forces de l'ordre. L'hôtel des impôts en partie incendié. Alors que faire, comment calmer le jeu? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Bonjour Thierry Dominici.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la Corse. Il y a quelques minutes dans le journal, on a entendu plusieurs députés de Corse réagir à l'annonce de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui se rendra sur place mercredi et jeudi. Ils disent que c'est la pire des choses. C'est aussi votre sentiment, la pire des choses, la venue de Gérald Darmanin?
Je ne saurais vous dire, mais au regard de la situation actuelle et notamment des tensions, liée aux émeutes portées par la jeunesse, oui, ça peut être la pire des choses, oui.
Il y a toujours eu des violences en Corse, entre les autonomistes et les indépendantistes, qui eux-mêmes ne sont pas d'accord, hein, bien évidemment. Est-ce que vous diriez que ce mouvement est classique, ou est-ce qu'il est différent des diverses violences qui existent en Corse depuis 30 ans ?
Mais en fait, il est plutôt différent. C'est-à-dire, moi je vois dans mes travaux, j'ai souligné avant la victoire des nationalistes, enfin pardon, comme vous le dites très bien, des autonomistes, j'avais signalé une massification populaire du nationalisme, c'est-à-dire qui dépassait le politique pour toucher plusieurs espaces en termes de stratification sociale, bon, culturelle, etc., sportive, hein, comme vous le savez aussi. Mais il était ce phénomène intergénérationnel. Et donc est apparue une jeunesse qui occupe l'espace public qui est laissé vacant depuis la victoire des nationalistes, parce que la mobilisation partait de la rue avant la victoire du nationalisme. Et donc oui, il y a un nouveau phénomène, un nationalisme populaire porté par une jeunesse.
Mais qui réclame quoi ? Qui réclame, qui est plutôt indépendantiste ?
Alors, je vois qu'aujourd'hui, ça vous intéresse énormément, cette classification, et très bien, et j'en suis heureux. Oui, en fait, ils se revendiquent pour la plupart indépendantistes.
Donc, mais c'est une frange de la population corse, ou de la jeunesse corse, à votre avis, ou c'est plus important que cela ?
Alors, moi, je sais que lorsque je faisais une enquête en études postdoctorales, une enquête sur la politisation des jeunes, j'avais noté déjà il y a 3 ans, donc, véritablement, un ancrage dans le discours nationaliste. Et donc, il y a une jeunesse, véritablement, aujourd'hui, qui existe, qui se revendique en lutte contre l'État colonial. C'est comme ça qu'ils expriment leur lutte. Et qui, comme je vous disais tout à l'heure, ne veulent pas pratiquer les violences de jadis que vous avez, on a connues toutes et tous, c'est-à-dire du FLNC jusqu'en 2014. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais connu. Mais plutôt s'engagent dans ce qu'ils appellent une lutte de masse, c'est-à-dire à travers un peu comme les Black Blocs, à travers des manifestations, et donc récupérer la rue en rentrant dans des actions directes contre l'État.
Thierry Dominici, si je vous comprends bien et entends bien, finalement, cette violente agression dont a été victime Yvan Colonna, c'est une étincelle qui déclenche un mouvement qui était déjà latent et bien présent.
Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait ces jeunes étaient déjà là, même après la victoire de M. Simeoni, d'abord en coalition avec Jean-Guy Talamoni. Il ne faut pas oublier que au départ, c'est la victoire de la coalition du nationalisme, puisque le FLNC y ont déposé les armes. Et alors en fait, il faut aussi rappeler que c'est non pas dématérialisé, mais démilitarisé. Et donc, si vous voulez, cette jeunesse-là, qui a voté en masse hein, pour le nationalisme, estime que finalement, la rue, en termes de violence politique, demeure le seul embrayeur possible. Donc c'est ça l'idée, en fait. D'ailleurs, regardez, je suis avec vous au téléphone, il y a encore une semaine, l'agenda médiatique, le cadrage de votre métier et du mien, c'était la guerre en Ukraine. Et de fait qu'il y a eu cette récupération de la rue par les jeunes, automatiquement, nous sommes entrés dans une forme de revendication et de mobilisation.
67 personnes blessées, un 44 parmi les forces de l'ordre, des manifestations comme il n'y a jamais eu à Bastia, et Gilles Simeoni est peut-être débordé aujourd'hui. Vous connaissez cette fameuse phrase, la révolution dévore ses enfants. Non que Gilles Simeoni soit un révolutionnaire, bien sûr, mais l'autonomie aujourd'hui, c'est pas assez pour certains, et certains veulent en Corse l'indépendance. Merci Monsieur Dominici.
Si je peux me permettre
une
phrase. Ici, ce qu'il faut pas, il faut pas y voir une réponse à l'autonomie. Ces jeunes qui sont dans la rue, ils estiment que il y a un déni de démocratie. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait ces élus sont bloqués par leurs compétences qui sont intrinsèques au droit de la décentralisation. Et eux, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est véritablement une réponse à leur déclassement. Parce que c'est très important, il faut le noter. C'est-à-dire que cette jeunesse souligne aussi sa situation précaire dans la société corse aujourd'hui qui est totalement bloquée.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, il y a également Michel Maffezoli, qui est un philosophe qui a écrit L'ère des soulèvements et qui pense que régulièrement, les antivax, les gilets jaunes, la Corse aujourd'hui, des mouvements comme ça, insurrectionnels, vont se lever un peu partout dans nos sociétés occidentales. Il est 12h59, on est un poil en retard, ce qui ne nous arrive jamais. La pause, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je dis bonjour à Anne qui est avec nous, mais je me demande, Anne, si vous deviez être la première auditrice à vous exprimer sur l'antenne, parce que vous, vous êtes pour le port du masque. Bonjour Anne.
Bonjour Pascal.
Donc vous avez décidé de nous démoraliser en ce début de semaine.
Non,
vous voulez qu'on garde le masque.
Non, je suis pas dans le but de vous démoraliser. Comme j'ai dit tout à l'heure à Olivier, je pars du principe qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité de chacun de se dire, on est dans un lieu public, il y a beaucoup de monde, on porte notre masque. Et de garder quand même au cas où un masque dans sa poche parce que je pense que c'est prématuré. Pour moi c'est électoral de retirer le masque, de tout retirer, toutes les protections, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des gestes barrières à conserver comme le lavage des mains réguliers, etc. Et ça on l'oublie.
Alors Anne, on va développer bien sûr cette idée. Je rappelle qu'il y a moins de 2000 personnes quand même dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est toujours de trop certes, mais c'est un chiffre qui est assez bas. Amandine qui n'a pas de masque aujourd'hui.
Et ce matin le professeur Delfrécy qui est venu d'ailleurs ici sans masque dans ce studio ce matin,
bien.
Président du conseil
symbolique.
Scientifique, disait qu'effectivement, c'est pas parce que le masque n'est plus obligatoire qu'on ne doit plus le porter. C'est à chacun de faire ce qu'il veut selon sa situation, s'il est à risque ou non. Ce masque, en tout cas, il n'est plus obligatoire ni à l'école, ni au bureau, ni dans les commerces. La seule obligation, ce sont les transports et les établissements de santé. L'autre grand titre, bien sûr, ce midi, c'est toujours la guerre, en Ukraine avec Kiev, qui a été cible pour la première fois de bombardement dans son centre. Un immeuble d'habitation touché ce matin. Au moins une personne a été tuée. Dans le même temps, reprise des négociations. Le porte-parole du Kremlin déclare à l'instant que l'armée russe n'exclut pas, je cite, de prendre le contrôle des grandes villes ukrainiennes. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Louis Baudin, et les températures continuent de grimper.
Oui, exactement. On peut commencer par ces températures qui, certes, étaient basses ce matin. On a encore eu des gelées dans le centre, dans le nord-est, mais alors cet après-midi elles s'envolent, 14 à 16 degrés au nord comme au sud, hein. On est quand même 2, 3, voire 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, parfois jusqu'à 17 degrés, notamment dans le sud-ouest. Alors c'est vrai que tout ça s'accompagne de soleil dans la moitié nord, là il dominera très largement cet après-midi, mais dans le sud on aura encore des nuages et même de la pluie dans l'extrême sud entre les Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur, la Corse, il y aura toujours un risque d'averse, forme de pluie ou de neige en montagne, et attention au vent également, le vent d'automne qui va atteindre 90 km/h sur la région toulousaine.
Et alors le reste de la semaine, printanier, c'est ça ?
Oui, printanier, on peut le dire. Alors c'est vrai que demain, la perturbation qui est aujourd'hui dans le sud glissera vers le nord. Donc demain matin, au nord de la Loire, on aura des nuages, quelques pluies. Mais en cours d'après-midi, on retrouvera là aussi de belles éclaircies, soleil dans le sud. Alors sauf dans le Languedoc, où on aura encore de la pluie et toujours beaucoup de vent. Le vent atteindra les 100 km/h sur la région toulousaine. Ce sera toujours du vent d'automne. Les températures grimperont encore un peu. Cette fois-ci, on sera entre 15 et 20 degrés au nord comme au sud. Et puis ensuite, le meilleur, c'est pour mercredi.
On l'avait noté, Céline Dacosta nous l'avait dit la semaine dernière.
Mais c'est pour ça on a dit qu'on n'était pas là avec Amandine mercredi.
Oui, c'est ça, on ne sera pas là d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'il fera 20 degrés. Hein,
20 degrés.
On va commencer à préparer cette terrasse.
Nous partons au bord de l'eau, voilà, avec Ludovic van de Kerkhove qui est dans un petit panier.
Ah, vous faites pas tête-à-tête avec moi.
Ah non,
je suis hyper vexée.
Nous serons tous les trois, nous serons au bord de l'eau dans un petit panier. Nous irons déjeuner dehors.
De petites terres de printemps devraient nous accompagner pour la fin de la semaine sur la moitié nord.
Ça va être magnifique. Merci Louis Baudin, merci Amandine, merci donc à Ludovic qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Et nous partons avec Anne qui veut garder son masque parce que c'est prématuré, nous dit-elle, de l'enlever. Ça commence bien.
Jusqu'à 14h30,